BFM Business Replay.
BFM Business Replay, le meilleur de BFM Business.
Good Morning Business, le meilleur de la matinale de l'écho. Good Morning Business, Culturia.
Bonjour à tous, bienvenue dans la semaine de Culturia. Comme chaque week-end, on vous fait un petit résumé du meilleur de l'actualité intelligence artificielle de ces derniers jours. Et en cette période de rentrée, on se pose cette question, est-ce que vous utilisez vraiment le plein potentiel de Claude, de ChatGPT, de Gemini? Probablement pas, moi non plus d'ailleurs, mais on peut essayer de s'améliorer. Je vais essayer en toute modestie de vous donner quelques conseils.
Good Morning Business, Culturia.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Et en cette semaine où pour beaucoup c'est l'heure du retour au bureau, vous nous proposez de passer à la vitesse supérieure avec l'intelligence artificielle. Utiliser ChatGPT ou Claude simplement pour poser des questions ou résumer un document, vous nous dites c'est dépassé.
Ah oui, c'est un peu comme utiliser une Ferrari pour aller chercher le pain. C'est-à-dire, ça peut servir à ça, mais c'est une sous-utilisation de la ressource, on va le dire comme ça. Alors quand je dis accélérer ou passer à la vitesse supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire déléguer réellement une partie de son boulot à l'intelligence artificielle. Ça veut dire automatiser des tâches. Alors, on peut distinguer plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà, si c'est pas déjà fait chez vous, eh bien de brancher les grands modèles d'IA que vous utilisez, ChatGPT, Claude, Gemini, à une partie de votre environnement de travail. Par exemple, si vous bossez sur Google, c'est assez facile. Gemini, maintenant, peut se connecter, si vous lui donnez l'autorisation, à votre boîte mail, à Gmail, à votre cloud, à votre agenda. Et donc, si vous rentrez de vacances, vous avez 650 mails non lus, vous allez juste demander à l'IA, qu'est-ce que j'ai raté? Et l'IA va aller farfouiller dans vos mails, va vous dire, voilà, ça c'est le mail le plus important. Ah, je vois dans ton agenda que t'as un rendez-vous client à 14h, je vais aller te chercher tous les documents que vous étiez échangés dans ton drive et puis je vais te faire un petit briefing. Et ça, ça permet évidemment de gagner du temps. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est carrément de laisser l'IA faire des trucs à votre place. Par exemple, répondre à vos mails. Il y a une fonctionnalité qui a été lancée par Anthropic il y a quelques jours où Claude va se connecter à votre Gmail et vous allez pouvoir lui donner l'autorisation de répondre aux mails à votre place. Alors, avec ou sans votre validation d'ailleurs, ça dépend du niveau de confiance que vous avez dans l'IA. Soit elle va vous dire, bon bah voilà, ce mail-là, je vais répondre ça, ce mail-là, je vais répondre ça. Ou alors carrément, vous dites non, je te fais confiance et l'IA va carrément répondre à vos mails à votre place.
Mais il s'inspire un peu de ce qu'il a vu dans la boîte mail?
Bien sûr, il s'inspire de ce que vous avez fait, de votre style, de vos échanges précédents. Et puis s'il y a un doute, évidemment, il vous pose la question et vous pouvez tout ajuster, hein, évidemment. Alors la dernière étape, c'est une fonctionnalité qui a été lancée par OpenAI il y a quelques jours, pas encore en France, ça s'appelle Computer History. Là, carrément, l'IA va analyser tout ce que vous faites sur votre ordinateur et elle va... Ben, par exemple, détecter que tous les vendredis soirs, vous envoyez à votre manager un report avec un tableau Excel dans lequel vous avez récupéré des chiffres de vente. Et donc, elle dit, voilà, là, je vois que tu fais ça, donc je vais en faire une routine et je vais l'automatiser, je vais le faire à ta place, si tu veux. Donc, elle va analyser votre travail, elle va vous proposer des tâches qu'elle peut automatiser elle-même. Tout ça, quand on le met bout à bout, ben, ça fait gagner du temps.
Ouais, ben, ça veut dire qu'il faut quand même faire sacrément confiance à l'IA, parce que si elle répond n'importe quoi au manager, par exemple, ben, ça fait quand même un peu mauvais genre.
Oui, c'est ça. Alors, je pense que ça va devenir la nouvelle excuse, c'est pas moi, c'est la faute à l'IA, et ça va créer forcément, s'il y a de plus en plus d'automatisation, de plus en plus de couacs, ça c'est une certitude, et c'est pour ça que mon conseil ce serait d'y aller progressivement. Évidemment, c'est d'abord de confier des tâches très peu sensibles, de voir comment ça fonctionne, et puis au fur et à mesure de lui confier des tâches de plus en plus complexes, mais l'idée générale c'est vraiment ça, c'est de dire arrêtez de seulement discuter avec l'IA, faites-la vraiment bosser pour vous, sachant que l'étape ultime si on peut dire, c'est ce qu'on appelle le computer use, là c'est carrément l'IA qui va prendre le contrôle entre guillemets de votre ordinateur, qui va être capable d'aller sur un site internet, de remplir des formulaires à votre place. Et donc là, vous pouvez lui demander des choses qui sont beaucoup plus complexes, du genre récupère toutes les factures de ce mois-ci et classe-les. Et il va aller ouvrir vos mails, trouver les fichiers PDF, les classer, les envoyer à votre expert comptable. Et là encore, c'est un gain de temps qui est considérable. Là, on arrive vraiment dans des thématiques dans ce qu'on appelle l'IA agentique, donc l'IA qui réalise réellement des tâches pour vous.
Alors, qui dit retour au bureau dit retour des réunions en présentiel ou en visio. Et là aussi, alors on peut être plus efficace.
Oui, grâce à l'intelligence artificielle. Déjà, si ce n'est pas déjà fait, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui utilisent déjà ces outils, les synthétiseurs de réunions. Vous savez, alors vous avez Auteur AI, vous avez Nota, il y en a plein. C'est des outils qui vont écouter vos réunions en visio et qui vont faire à la fin une petite synthèse. Alors, ce qui est devenu aussi, c'est un peu pervers, un outil de flicage au sein des entreprises. Parce qu'on est capable, avec ces outils, de savoir qui a parlé, combien de temps, qui a été était vraiment présent et réactif pendant la réunion. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Et alors, l'outil ultime, mais là, j'hésite même à vous en parler parce que c'est un outil de tir au flanc un peu, c'est des outils qui permettent d'envoyer son avatar virtuel à sa place à la réunion. C'est-à-dire que vous avez des outils, je pense à Pickle AI, par exemple, vous allez envoyer une photo et vous avez une photo qui va s'animer à l'écran. On a l'impression que c'est vous qui êtes devant votre webcam, alors qu'en fait, vous êtes avachi sur votre canapé ou en train de faire votre vaisselle. Mais vos collègues, eux, voient bien votre visage qui acquiesce, qui fronce des sourcils, qui est très présent dans la réunion. Peut-être la réunion ou la visio du futur, ce seront des IA qui parlent à d'autres IA. Je ne sais pas si ce sera très productif en réalité.
Good morning business, culture IA.
Et pour nourrir ces modèles toujours plus puissants, on a besoin en permanence de data, de données fraîches. Et vous allez voir que pour les récupérer, eh bien les géants de la tech sont prêts à tout.
Good morning business, culture IA.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors, on le sait, la matière première essentielle de l'IA, c'est la data. Les géants de la tech sont prêts à tout pour récupérer le plus de données possible pour entraîner et améliorer leurs modèles. Et ça va parfois très loin.
Ouais, la dernière illustration en date, c'est le projet Panama, dont on a connu l'existence cet été. Le projet Panama, c'est Anthropic qui, pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, dans le plus grand des secrets, achète, pour les numériser puis les détruire, des millions de livres, des livres physiques, des livres papier, des livres d'occasion, donc auprès de revendeurs spécialisés. Ils en récupèrent comme ça des millions et des millions. Et ensuite, ces bouquins, eh bien, ils sont acheminés vers de grands entrepôts où les attendent des machines spéciales qui vont découper la reliure, qui vont trancher les pages une par une. Bah oui, c'est plus facile ensuite pour les scanner et les numériser. Tout ça, bah, ça va servir de matière première pour alimenter les algorithmes, pour les améliorer d'une certaine manière. Et puis, une fois qu'on n'en a plus besoin, parce que ces livres déchirés, ça sert pas à grand chose, eh ben on va les broyer et puis ça va servir, on va les recycler pour faire, je sais pas, du papier toilette, ce qui est pas un avenir très enviable pour un bouquin. Mais en tout cas, l'objectif de ce projet Panama, eh bien, c'est de convertir en 6 mois 2 millions de livres en données exploitables pour alimenter les algorithmes et les rendre toujours plus performants dans leurs réponses. Parce que c'est vraiment ça, la clé du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, les livres, c'est une donnée, une matière première qui est extrêmement précieuse. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des matériaux qui sont en général assez bien écrits, en tout cas mieux que ce qu'on va trouver en moyenne sur Internet. C'est une matière qui a été relue, qui est contextualisée, qui est bien structurée, et donc ça, c'est incroyablement précieux, évidemment. Le problème, eh bien, c'est la destruction de ces livres, qui pour certains sont des livres rares, des livres qui ne sont plus ou qui sont peu édités. Le projet, d'ailleurs, était censé rester clandestin. Il a été rendu public à l'occasion d'une procédure judiciaire qui a été intentée par un groupe d'auteurs qui accuse Anthropic de violation du droit d'auteur. Bon, là, on parle d'Anthropic, mais en réalité, faut pas se le cacher, hein, tous les grands modèles d'IA font la même chose. On a appris d'ailleurs qu'Amazon faisait la même chose, donc acheter des livres pour les broyer, les scanner et les numériser pour entraîner ces modèles.
Alors, on rappelle que c'est pas quand même des autodafés organisés comme chez les nazis, hein, parce que de toute façon, on garde évidemment et c'est numérisé.
Tout à fait.
Voilà la nuance. Récupérer de la donnée, c'est devenu le nerf de la guerre pour tous les gens de la tech, et tous les moyens sont bons, ça ne s'arrête pas aux livres.
Non, les livres, c'est un exemple, mais en fait, faut bien comprendre que le problème, c'est qu'on arrive au bout des données exploitables, des données humaine de qualité facilement accessible. En gros, les géants de la tech, OpenAI et Anthropic, ils ont déjà siphonné tout Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin ? On a eu un autre exemple il y a quelques jours, c'est Google. Google qui a racheté pour 10 millions de dollars les archives d'une entreprise en faillite, Spirit Airlines. Spirit Airlines, c'est une compagnie aérienne donc qui a fait faillite. Et donc, ils ont racheté des millions de mails de l'entreprise, des échanges sur WhatsApp ou sur Slack, des documents internes à caractère financier, des enregistrement d'appels au service client, une sorte de fossile d'entreprise, et toute cette data-là, eh bien, elle va être utilisée, là encore, pour entraîner les futurs modèles et les rendre plus performants. Et c'est un vrai sujet, il y a un certain nombre de start-up et d'entreprises qui font faillite, qui vendent maintenant leurs informations à des géants de l'intelligence artificielle, qui sont très friands. Il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme une sorte d'ogre qui a toujours faim de données fraîches, et donc il faut la nourrir en permanence.
Ça veut dire que pour valoriser une société, il faudra aussi valoriser les data.
Bien sûr.
Quand on aura épuisé toutes les sources de données humaines, on fera comment ?
Alors, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA s'alimente de plus en plus par elle-même. En gros, vous avez une forme, certains parlent d'ailleurs de consanguinité de l'intelligence artificielle. Pour nourrir l'IA, on utilise des données qui ont été déjà générées par l'intelligence artificielle. Et ça, au fil du temps, ça va créer une sorte d'affaiblissement général, d'où l'importance de trouver toujours des nouvelles sources de données. Alors, il y en a toujours, parce que si vous prenez par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bah ça, on peut le récupérer. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, hein, tous les réseaux sociaux, maintenant, à moins que vous ne décochiez une case dans les paramètres, ont l'autorisation de récupérer tout ce que vous publiez, que ce soit du texte, que ce soit de la photo, de la vidéo. C'est vrai sur Instagram, c'est vrai sur LinkedIn. On a appris il y a quelques jours que Twitch, c'est le réseau de streaming, allait récupérer tous les streams, donc toutes les vidéos qui sont publiées pour entraîner ces modèles d'IA. Ça peut servir par exemple à entraîner des futurs robots. C'est très important la vidéo pour ça. Donc oui, on a toujours besoin de données supplémentaires, évidemment. Et puis parfois, eh bien, les utilisateurs se rebiffent un petit peu. Par exemple, WeTransfer, il y a quelques mois, vous savez, WeTransfer, on s'en sert pour transférer des très gros fichiers. Ils avaient dit, bah, à partir de maintenant, on pourra utiliser toutes les données que vous transférez pour entraîner nos IA. Et là, les gens avaient dit, bah, attendez, non, mais c'est pas possible que vous récupériez tout ce qu'on vous envoie. Et donc, ils avaient dû faire machine arrière. Mais en fait, il y a une vraie réflexion. Est-ce que finalement, nous, les utilisateurs, on ne devrait pas être rémunérés d'une manière ou d'une autre parce que finalement, notre data est utilisée pour entraîner ces modèles d'IA sans qu'on ait rien à y dire et sans que ça nous rapporte rien.
Good morning business, culture IA.
Et puis pour tous ceux qui s'inquiètent de perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle, voici une idée qui va sûrement vous intéresser.
Good morning business, culture IA.
Alors que l'IA menace de plus en plus d'emplois, tiens, on en parlera dans le pitch tout à l'heure d'ailleurs, Anthony Morel, est-ce qu'il faut réserver certains métiers aux humains, Anthony? C'est la proposition choc de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, donc c'est quand même un grand monsieur dans ce domaine-là, très écouté dans le monde de la tech, qui demande que les pays s'entendent pour protéger certaines activités et les interdire purement et simplement aux machines.
Oui, c'est touche pas à mon job d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on pourrait résumer cette proposition, alors qui figure dans un essai d'une douzaine de pages qui a été publié par Bill Gates. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que dans cet essai, il a un discours qui est un peu plus sombre que d'habitude. D'habitude, il est très techno-optimiste, Bill Gates, et là, il explique, je le cite, hein, qu'on s'apprête à connaître l'une des transitions les plus turbulentes de l'histoire de l'humanité, alors avec notamment des destructions massives d'emplois. Et donc, face à cette situation, eh bien, pour lui, la solution, ce serait de créer une catégorie de métiers réservé, hein, c'est l'expression qu'il utilise, donc des métiers dont on déciderait collectivement, eh bien, qu'ils sont interdits purement et simplement aux machines, pas pour des raisons technologiques, parce que d'ici quelques années, malheureusement, l'IA, la robotique pourra tout faire, presque tout faire mieux que nous, mais pour des raisons éthiques et des raisons sociales. Il compare d'ailleurs cette notion d'emploi réservé avec la notion de réserve naturelle. C'est-à-dire, il y a des endroits dans le monde, on pourrait tout bétonner, mais on se dit, bah, quand même, laisser un peu de nature, c'est sympa. Ben là, c'est exactement la même chose. Il prend des exemples concrets. Par exemple, un médecin. Demain, vous pourriez avoir un robot qui va vous poser un diagnostic et qui va vous annoncer que vous avez une maladie grave. Est-ce que c'est possible technologiquement ? Oui. Est-ce que c'est souhaitable ? Bah, pas forcément. Il y a des choses qui sont irremplaçablement humaines et donc on peut élargir le spectre à plein d'autres types de métiers. Est-ce que, je sais pas, les gardes d'enfants, est-ce qu'il faut des crèches gérées par des robots ? C'est pas sûr. Est-ce qu'il faut des professeurs robotiques ? C'est pas sûr non plus. Et on peut en rigoler, mais c'est en train d'arriver. Je vous en parlerai dans quelques jours d'ailleurs. Des juges, des psys, enfin, il y a plein de métiers comme ça qui pourrait être donc réservé aux êtres humains. Et puis, il explique aussi qu'il faudrait une protection temporaire pour certains emplois. Il dit, par exemple, un salarié du BTP qui a 55 ans, on lui dit, bah, demain, ton boulot va être remplacé par un robot, va bosser dans une maison de retraite. C'est pas possible. Donc, il faut aussi avoir, eh bien, l'acceptation de peut-être une baisse de performance, moins d'efficacité, si c'est pour préserver notre tissu social.
Oui, c'est pas parce que c'est technologiquement possible qu'il faut absolument le mettre en place.
C'est ça.
Sur le papier, ça peut être séduisant, mais est-ce que c'est vraiment réaliste ? Parce que la question, c'est de savoir qui décide quels métiers sont concernés et comment on met ça en place concrètement.
Oui, c'est très très compliqué. Et si on fait un parallèle historique, c'est un peu comme si à l'arrivée de l'électricité, on avait dit non, mais on va laisser la moitié des villes allumées au gaz pour préserver les emplois des allumeurs
de réverbères.
Peut-être. C'est-à-dire que socialement, on peut se dire sur le coup, ouais, c'est pas mal, mais à long terme, on voit bien que ça n'a aucun sens. Comme je le dis souvent, on n'arrête pas la marée avec une serpillière, et c'est encore plus le cas pour l'intelligence artificielle et pour la robotique. Et Bill Gates le comprend très bien, hein, évidemment, il n'est pas idiot, et d'ailleurs, il le dit dans son essai. Comment est-ce qu'on met ça en place? Comment est-ce qu'on choisit quels métiers sont concernés, lesquels on sauve, entre guillemets, et puis lesquels on sacrifie? Et puis surtout, ce système, il peut fonctionner que si tout le monde accepte de jouer le jeu. C'est-à-dire, dans une économie mondialisée, si, imaginons, en Europe, on dit, bah oui, on va donner un quota d'emplois humains dans les usines automobiles, par exemple. Il faut qu'il y ait au moins 10% d'humains qui travaillent dans les usines et le reste, ok, c'est les robots. Et que la Chine, de son côté, dit, bah non, nous, on automatise à 100%. Bah, ça crée une distorsion de concurrence. Tout le monde le comprendra aisément. Donc, ça crée vraiment plein de problèmes. Bill Gates Gates dit qu'il faudrait une coordination internationale comme il y en a pour le nucléaire, comme il y en a pour l'aviation civile. Bon, le temps que tout ça se mette en place, on a le temps d'être remplacé 10 fois, à mon
avis. Oui, exactement. Et puis on voit bien déjà que les États-Unis, comme vous l'avez dit, n'agissent pas du tout de la même façon que l'Europe par rapport à ces questions-là.
Il faut d'ailleurs qu'il y ait une discussion très sérieuse sur le sujet entre les États-Unis et la Chine. Bon, ok, là aussi, il peut l'appeler de ses voeux. De là à ce que ça se fasse, c'est quand même assez complexe.
L'autre mécanisme pour préserver l'emploi, c'est taxer l'IA et les robots, Anthony.
Oui, alors là aussi, c'est une proposition de Bill Gates. C'est pas le premier à en parler, hein, évidemment, mais il explique que ça limiterait mécaniquement le risque de remplacement par les machines parce que ça rendrait l'automatisation moins incitative pour les entreprises. En fait, ce qu'il explique, c'est intéressant. D'ailleurs, il dit notre fiscalité, elle encourage le remplacement des humains. Pourquoi ? Bah parce que quand une entreprise embauche un salarié, elle va payer des prélèvements sociaux très lourdement taxés, surtout en Europe encore plus. Hein. Alors que quand on achète un robot, bah d'un point de vue comptable, on peut en fait le déduire des charges. C'est considéré comme une charge. Donc en fait, on contribue nous-mêmes à notre propre remplacement par les machines. Ça, il faut que ça change. Alors en attendant ces lois, parce que là encore, ça va prendre du temps, peut-être qu'on pourrait aussi faire apparaître un nouveau label après le Made in France, après le fait main, on pourrait avoir du Made by Human. Et ça, on peut très sérieusement imaginer hein, que on pourrait avoir sur des produits, des services, eh bien la garantie qu'ils ont été faits, confectionnés par des humains à 100%. Peut-être qu'à l'heure où la machine saura presque tout faire mieux que nous, le travail humain, ce sera le luxe ultime.
Good morning business, Culturia.
Et puis les avancées toujours plus spectaculaires de la robotique. Tiens, par exemple, dans le domaine sportif, un robot humanoïde qui court plus vite qu'Usain Bolt, c'est désormais une réalité.
Good morning business, Culturia.
Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
Alors Anthony, en ce moment en Chine se tiennent des Jeux Olympiques un petit peu particuliers, des JO pour robots, des humanoïdes de tous les pays qui s'affrontent, alors soit sur une piste d'athlétisme ou sur un ring de boxe, et ça n'a pas l'air, mais c'est très sérieux.
C'est très sérieux, alors on a l'impression d'être revenu aux JO de Paris d'ailleurs, parce qu'on a tous les codes des Jeux Olympiques, on a eu la grande cérémonie d'ouverture dans un stade plein à craquer, on a le grand concert également, le défilé des athlètes. Quand je dis des athlètes, évidemment ce sont des boîtes de concert, j'allais dire des humanoïdes, des robot avec deux bras et deux jambes. Alors un peu en mode Stormtroopers, hein. C'est limite inquiétant quand on les voit comme ça se balader sur le stade. C'est assez spectaculaire et surtout ces robots, eh bien, ils vont s'affronter, ils sont en train de s'affronter dans 50 disciplines. Alors ça va du sprint à la boxe en passant par le foot, le saut en longueur également. Et on a des performances extraordinaires. On a par exemple un robot baptisé Lightning la foudre, qui a battu le record du monde d'Usain Bolt sur 100 mètres. 9 secondes 39 quand même, c'est assez dingue. Les images sont très spectaculaires. Alors on a des robots qui s'en sortent un petit peu moins bien, qui titubent, qui se trompent de couloir.
J'ai l'impression qu'il a un peu bu celui-là.
Voilà, celui-là avait un petit peu bu, il y a des ratés évidemment, mais globalement, ce qu'on en retient, c'est les avancées très spectaculaires. Au saut en longueur, ils sont vraiment pas mal sortis non plus, ils ont failli battre le record du monde humain dans le domaine de la vitesse, de la souplesse, de la dextérité. Ça va très 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 vite. Je peux en témoigner parce que j'ai affronté certains de ces robots sur des grands salons technologiques, au tennis de table par exemple, ou encore en boxe, il y a encore quelques mois. Sans me vanter, je tenais à peu près la route. Aujourd'hui, j'ai plus aucune chance. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle comme dans la robotique, ça va très 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 vite. Et on a une nouvelle blessure narcissique pour nous les humains. Après nous avoir battus aux échecs, aux jeux de go, eh bien, ce sont toutes les disciplines sportives maintenant dans lesquelles les robots eh bien, vont nous battre à plate couture.
Alors Anthony, on voit bien la performance technologique, ça, d'accord. Mais à la fin, à quoi ça sert ?
Alors, faut avoir un petit peu d'imagination et se projeter. Mais en fait, tout ça, c'est évidemment une vitrine technologique. Un robot qui court sur une piste, ça sert pas à grand chose. En revanche, en termes de précision, d'adaptation, d'apprentissage, tout ça, on va pouvoir s'en servir dans l'industrie, dans la santé, dans la défense. Des robots dont on va pouvoir se servir, bah, par exemple, dans des entrepôts hein, pour faire de la manutention. S'ils sont capables de courir très très vite, très très longtemps, on voit bien à quoi ça peut servir. On va pouvoir s'en servir pour faire de la surveillance ou patrouiller sur des sites industriels. Évidemment, dans l'armée, on va pouvoir s'en servir également, et ça intéresse énormément tous les pays d'ailleurs, ces robots humanoïdes. On va aussi pouvoir s'en servir dans le domaine de la santé. Toutes les avancées dans le domaine de la motricité, eh bien, on va par exemple pouvoir les adapter pour concevoir des exosquelettes pour des personnes handicapées. Et puis, on va pouvoir également s'en servir eh bien, comme robot partenaire pour les sportifs, robot partenaire d'entraînement, voire adversaire. On pourrait imaginer un jour une diffusion de compétitions télévisées hommes contre machines. Je pense qu'il y aurait un public pour ça.
Alors, pour la Chine, c'est aussi une manière de montrer un peu ses muscles technologiques.
Oui, clairement, parce que c'est le pays hôte de ces Jeux Olympiques robotiques, mais en fait, il y a 95% des robots qui sont des robots chinois. Donc, c'est vraiment histoire de dire, c'est vraiment nous les plus plus forts dans le domaine de la robotique humanoïde, qui est une réalité. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, puisque cet événement, il coïncide quasiment jour pour jour avec le World Robot Conference, qui est la grande conférence annuelle mondiale de la robotique, qui se tient également à Pékin, dans laquelle on a eu des démonstrations plus spectaculaires les unes que les autres. Vous savez que Xi Jinping a dit que la robotique, c'était la prochaine grande révolution industrielle pour la Chine. Ils y voient le même potentiel que les smartphones ou les voitures électriques. Donc vraiment, ils veulent être très en avance sur ce sujet-là. Et ça tombe à peu près au même moment également que l'introduction en bourse d'Unitree. Unitree, c'est le champion chinois de la robotique, hein, qui s'est introduit en bourse la semaine dernière. Sur son premier jour de cotation, la valeur de l'entreprise a été multipliée par 5. Donc vraiment très grosse avance du côté de la Chine. La France et l'Europe, malheureusement, sont pas absentes, mais un peu en retard dans ce domaine. Il faut aussi qu'on se réveille de ce côté-là.
Good Morning Business, Culturia.
Voilà, c'est tout pour cette semaine de Culturia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi matin dans Good Morning Business. D'ici là, restez connectés.
Good Morning Business, Culturia.